nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
La fondation HSBC pour l'éducation, qui a pour objet de faciliter par la culture l'accès à l'éducation d'enfants en milieu défavorisé, et Canal Académie ont le plaisir de vous proposer une émission reportage sur Montmartre. Le réseau Montmartre fédère aujourd'hui 6 lieux d'accueil à Paris et en région, 4 lieux d'accueil à Paris dans les 12e, 18e et 20e arrondissements, ainsi que 2 antennes qui ont ouvertes cette année à Arles et à Nantes, avec également un projet en cours sur Lille. Montmartre accueille 340 familles par an, soit plus de 1000 familles depuis 10 ans, 400 enfants y sont inscrits, 17 salariés dont 6 artistes y travaillent. Chaque lieu d'accueil permet 9 heures d'activité artistique par mois et par enfant. Canal Académie reçoit dans ses studios les organisateurs, les responsables de ce réseau associatif Montmartre. Nous irons aussi en reportage dans l'un de leurs lieux d'accueil parisiens, Môme Pelleport. Canal Académie a le grand plaisir de recevoir autour de ses micros à l'Institut de France quelques-uns des responsables, quelques-uns des utilisateurs du réseau Montmartre. Alors, nous allons voir en quoi consiste ce réseau Montmartre. Nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Claire Lame. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour, je suis Anne-Claire et je suis chargée de développement au réseau Montmartre.
D'accord. Alors, donc, on dit réseau, c'est un réseau associatif.
Exactement.
Qui couvre la ville de Paris.
Le réseau Montmartre fédère aujourd'hui 6 lieux d'accueil à Paris et en région. Donc, il existe 4 lieux d'accueil à Paris dans le 18e, 20e arrondissement et 12e. Et donc, 2 antennes qui ont ouvert cette année à Arles et à Nantes.
Formidable. Alors, à vos côtés, Anne-Claire, Émilie Maubert. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Vous êtes donc directrice de l'association Môme Pelleport, que nous allons visiter. Nous viendrons avec nos micros interviewer sur place les enfants dont vous avez la garde, la responsabilité. Dites-nous, se trouve dans Paris, Môme Pelleport.
Et au 165 de la rue Pelleport, donc dans le 20e arrondissement, tout en haut de la rue Pelleport, donc juste à côté du 19e arrondissement.
À vos côtés, Claire. Claire qui est une maman, qui est la maman d'Awa Claire. Awa Claire a 7 ans. Claire, vous allez nous expliquer le pourquoi de votre inscription d'Awa Claire au sein de cette association. Pourquoi ce choix? Est-ce que ce sont des amis qui vous en ont parlé? Est-ce que ce sont des directeurs d'école? Vous allez nous expliquer tout cela dans un instant. Signe est également à nos côtés. Signe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes artiste intervenante extérieure. Dans quel domaine? Expliquez-nous.
Alors moi, j'ai une spécificité art plastique, peinture sur les artistes majeurs du XXe siècle. Mais l'intérêt de travailler avec le réseau Montmartre et particulièrement l'antenne Môme Pelleport, c'est de leur faire découvrir les artistes du XXe siècle.
D'accord, donc la création en art plastique.
La création en art plastique, voilà.
Mais j'ai vu aussi une spécialisation en PAO. Donc vous les initiez aussi
non,
à l'ordinateur?
Non, là, c'est, je suis graphiste freelance par ailleurs et je travaille régulièrement avec Môme Pelleport en tant qu'artiste intervenante. Ce sont deux casquettes différentes, mais l'une enrichit l'autre. L'une se nourrit de l'autre. Des fois, les travaux des enfants au niveau graphique sont tellement intéressants que ça peut nourrir un travail de PAO par ailleurs. Et ma formation de PAO m'aide aussi à orienter les enfants dans leur réalisation graphique.
Très bien. Maintenant, prenons un peu de distanciation par rapport à tout ça et voyons un peu l'historique de Montmartre. Qui est l'âme de cette création? Qui en a eu l'idée et comment les choses ont-elles pu se concrétiser? Anne-Claire.
Alors Montmartre a été créé il y a une dizaine d'années par Chantal Minguenet, donc la fondatrice de l'association Montmartre, qui est partie en fait de son expérience personnelle. Elle s'est retrouvée foyer monoparental avec 2 enfants à Paris et elle a réalisé combien il était difficile de concilier travail et famille lorsqu'on était à foyer monoparental en milieu urbain. Donc elle a réfléchi en fait à un lieu d'accueil pour des enfants de 6 à 11 ans, adapté en fait à la fois aux horaires, au budget des familles, un mode de garde de qualité et équitable, donc accessible pour tous, où l'art en fait aurait sa place, d'où la création de Montmartre.
Bonjour, je m'appelle Ina.
Je m'appelle Florent.
Je m'appelle Mehdi.
Je m'appelle Titou.
Je m'appelle Léon.
Je m'appelle Salomé.
On est les enfants de Montpellier.
On va à Montpellier. Aller à Montpellier.
On mange le goûter là-bas et après on fait des activités.
Un goûter bio. Un goûter bio.
Et vous êtes sûr que le goûter là-bas?
Oui.
Donc un très beau projet, un projet qui, avec beaucoup d'extensions, de développement possible. Alors justement, Montmartre s'adresse à des enfants de quel âge et propose quel type de service auprès des familles?
Montmartre s'adresse à des enfants de 6 à 11 ans et est un mode de garde en fait complet après l'école, les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Donc Montmartre ne s'adresse comme mode de garde aux parents, aux familles, que en dehors des heures de travail scolaire.
Exactement. Montmartre a la particularité d'offrir un service donc de garde des enfants de 6 à 11 ans complet, dans le sens où nous allons chercher des enfants à la sortie de l'école.
Comment ?
Pas besoin de maman, pas besoin de nourrice. Les équipes, en fait, constituées de salariés, d'artistes, de bénévoles, en fait, viennent chercher les enfants à la sortie de l'école.
Là, on est en train de préparer le goûter pour les enfants.
C'est du pain avec du chocolat. C'est du chocolat équitable, enfin, bio-équitable. Et c'est très bon. Enfin, les enfants, ils aiment bien, en tout cas. On leur a déjà expliqué, voilà, d'où vient ce chocolat, pourquoi c'est bien de manger ce chocolat, enfin, d'où vient et pourquoi on a choisi de leur proposer ce chocolat-là. Du coup, ils sont déjà au courant.
Alors, moi, je suis Karine. Je suis bénévole dans l'association depuis le mois de janvier. J'ai connu l'association comment ? Alors ça c'est une bonne question. Par hasard, vraiment par hasard. Moi je voulais travailler avec des enfants, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec des enfants et je voulais travailler aussi autour de tout ce qui est artistique. Moi ça me permet de faire ce en quoi je crois.
Donc moi c'est Valéria et je fais partie de l'équipe en tant que volontaire du service civique. Et en fait, cette année, j'ai terminé mes études en lettres. Enfin, j'ai eu ma master 2 en lettres. Et je voulais prendre une année, parce qu'en fait, je voudrais devenir enseignante. Et je voulais faire une expérience avec des enfants dans un contexte artistique, mais aussi pour me préparer un peu à ce métier. Et du coup, voilà, je me suis renseignée un peu sur Internet. Je savais qu'il y avait cette possibilité du service civique. Du coup, j'ai trouvé cette offre sur Internet. Bah, l'association, elle avait l'air très chouette. Et j'aimais bien ses côtés artistiques, culturels. Du coup, ouais, j'ai postulé. Maintenant, je suis là depuis bientôt 7 mois. Je suis italienne.
Alors, moi, c'est Pierre. Et le service civique, c'est des jeunes de 18 à 25 ans qui s'engagent auprès des associations. Vraiment pour donner de leur temps et essayer de s'intégrer dans cette vie associative pour connaître tout ce qui se passe dans la ville, tout ce qui peut se passer aussi au sein de notre association. Moi j'ai trouvé ça dans une boîte d'intérim qui proposait en fait des emplois avec le service civique. Donc j'ai trouvé ça tout à fait par hasard. Donc ça me rémunérait par l'État et par l'association. Mon rôle à moi, c'est de, comme je suis artiste, je peux proposer des ateliers d'art, comme la peinture, la BD, puis précisément la BD, parce que je suis dans la bande dessinée. Donc je fais ça. Je m'occupe aussi de tout ce qui peut être apporter un œil sur les fournitures artistiques qu'il faut à l'association. J'ai un œil assez artistique, donc tout ce qui concernera l'art, j'aurai des choses à faire dedans. Et plus précisément aussi, je m'occupe aussi des enfants. J'étais dans l'animation. Donc je m'occupe, j'essaie d'animer des ateliers avec les enfants.
Donc nous ramenons les enfants à l'association, nous proposons un goûter convivial, de l'aide aux devoirs et au cœur du projet, les ateliers artistiques animés par des artistes professionnels.
Donc, c'est une association qui doit se tenir proche des établissements scolaires.
Complètement. Donc, nous, nous sommes vraiment implantés localement sur le territoire. Nous offrons un service de proximité aux familles, foyers monoparentaux, habitants du quartier et artistes, bien sûr, du territoire.
Mais uniquement monoparentaux ?
Non, c'est un service en fait qui s'adresse à toutes les familles avec un regard plus particulier et particulièrement bienveillant pour les foyers monoparentaux.
Qui peut s'inscrire ? Qui peut vous confier son enfant à la sortie des écoles ?
Toutes les familles.
Toutes les familles. Et donc, est-ce qu'il y a des critères spécifiques ?
Non, nous accueillons toutes les familles en effet en fonction évidemment du nombre de places et du nombre d'enfants que nous pouvons accueillir. L'idée, c'est que nous communiquons donc sur le service à la sortie des écoles vers le mois de juin afin d'organiser la rentrée scolaire. Et en septembre, donc, nous organisons des inscriptions de manière à répartir en fait toutes les familles, puisque le projet aussi privilégie la mixité sociale. Donc c'est important pour nous, au moment des inscriptions, de pouvoir accueillir des familles favorisées, des familles de classe moyenne et également des familles plus en difficulté. Et notamment aussi des familles donc, dont les enfants sont éloignés du monde de l'art et de la culture. Voilà, donc au niveau des inscriptions de rentrée scolaire, c'est vrai que nous ferons attention à accueillir tout type de familles et dans une diversité sociale, culturelle, économique, etc.
Donc au niveau des tarifs, comment est-ce que cela se passe ? C'est en fonction des revenus de chacun ? Il y a une étude ?
Nous avons une grille de 10 tarifs pour le service du soir allant de 10 centimes de l'heure jusqu'à 10 euros de l'heure. Juste 10 euros, c'est à peine le tarif du nounou à domicile. Donc les familles donc, sont accueillies et on leur demande de nous fournir leur avis d'imposition, en fonction duquel donc, on propose un tarif, mais aussi suite à une discussion sur la situation de la famille. Enfin, souvent, les avis d'imposition ne reflètent pas la réalité vécue au quotidien. Et donc, ce rendez-vous est une occasion pour d'abord connaître les familles, qu'elles se sentent à l'aise. On n'est pas un centre de loisirs classique et c'est important pour nous de créer ce lien de proximité et vraiment privilégié avec les familles. Donc oui, les tarifs seront fonction des revenus des familles et de leur situation.
Parfait. Alors, Anne-Claire, tout à l'heure, vous nous disiez que Montmartre s'adressait à des enfants dès l'âge de 6 ans. 6 ans, passer toute une matinée, toute une après-midi quand on a 6 ans à l'école, continuer sa journée après sa sortie d'école au contact de personnes qui ne sont pas le papa, pas le frère, pas la sœur, pas la grand-mère, hein, en dehors du contexte familial. Et là, je m'adresse à Claire, qui est maman d'Awa Claire. Est-ce que ce n'est pas trop lourd pour ces enfants ? Et alors là, j'enchaîne tout de suite sur la motivation pour transmettre l'art à ses enfants. Donc cette motivation est là, l'objectif est là, mais racontez-nous si pour Awa Claire, c'est pas un peu lourd de continuer tout en étant bien accueilli dans sa société, mais on est quand même en dehors de ses lieux de vie habituels et c'est encore un peu lourd pour 6 ans. Donc qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est sûr que c'est toujours des journées longues pour les enfants, mais en fait, tout dépend de l'accueil aussi bienveillant qui est là et de l'intérêt qu'on leur porte tout simplement. En fait, je pense que c'est l'intérêt de proposer une activité intelligente, en tout cas pensée. Et je pense que pour les enfants, il y a toujours matière à s'y retrouver.
D'où le rôle des familles, d'explication, de parler, de communiquer, de dire que là, ils vont découvrir un monde qu'ils ne connaissaient peut-être pas très bien, le monde de la peinture. On a parlé de peintres contemporains, etc. Et donc, de leur donner cette envie de provoquer l'éveil et cette curiosité en eux.
Oui, en même temps, je pense que ce sont des lieux, comme moi j'ai pu constater, où ça peut être l'enfant aussi qui apporte des choses à la maison. Et bien souvent, on ne prend pas forcément le temps de parler d'art ou d'aller voir des expositions, que même si à Paris, on a plein de choses. Donc en fait, c'est aussi ça l'intérêt, enfin, entre autres, hein, d'avoir un lieu qui peut aussi renvoyer des choses aux parents et de délivrer une parole, je dirais, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique, puisque l'intérêt que j'ai trouvé à Môme Pelleport, puisque ma fille y est, c'est de faire de l'art quelque chose qui n'est pas élitiste. On découvre plein de choses avec de la récupère, des bouts de papier. Ce qui est vraiment important, c'est que ce sont des activités qui sont pensées dans des projets de 2 mois, ou enfin ce que j'ai pu en constater. qui prennent en compte l'enfant et l'artiste. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans cette association, c'est que tout le monde s'y retrouve, que ce soit l'enfant, le parent, l'artiste, l'animateur qui est aussi bien considéré. Je pense qu'il y a une symbiose qui fait effet et qui renvoie aussi voilà, des choses dans la famille aussi.
J'aime bien mon palmarès parce que les matières, elles sont bien. J'aime bien les matières et on fait des choses bien.
Et aussi, moi, j'aime Pelleport parce que aussi, il y a des choses qu'on n'a pas à la maison. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la maison.
J'aime bien parce qu'on ne fait pas que de la peinture, on fait aussi des marionnettes, on fait plusieurs activités, tout ça. Enfin, on fabrique aussi.
J'aime bien Montbellport parce qu'après, on peut refaire ce qu'on a fait à Montbellport, à la maison. Du coup, on peut les refaire tout le temps, même à l'école. Et c'est comme ça, en même temps, on apprend plein de choses.
Et est-ce qu'on peut retrouver le silence, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un... Florent, as-tu entendu ce que vient de dire Salomé?
Non.
Est-ce que tu écoutes Salomé? Montbellport, c'est aussi ça. On apprend à s'écouter et à vivre les uns avec les autres.
Oui,
Florent, je suis en train de te parler, là.
Oui, c'est...
Et on apprend le respect aussi.
C'est pas elle, elle me fait marrer.
Oui, c'est toujours la faute des autres, de toute façon. Dans le monde des enfants, c'est toujours la faute des autres.
Non, c'est la faute des autres.
Donc, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît, mais en s'écoutant? Marius, si t'as quelque chose à dire, je veux bien que tu le dises au micro.
Arrête, j'ai rien, s'il te plaît.
Est-ce que tout le monde a des devoirs?
Oui.
L'enfant est accueilli en tant qu'individu dans votre association Montmartre. Il est suivi, on va assister à son développement, on va l'aider à se développer, à étoffer sa curiosité et à lui donner matière.
À lui faire découvrir des matières, des couleurs, des artistes, des périodes. L'idée, c'est en effet, comme le disait Claire, de travailler sur la notion de projet artistique, donc avec un objectif et avec des méthodes pour y arriver. Pour nous, c'est pas tant le résultat qui importe que tout le développement pour arriver à nos objectifs. L'accent que nous mettons dans les activités que nous proposons à Montbellport, c'est vraiment sur la notion de projet, donc que nous développons sur des périodes de 2 mois, entre 2 périodes de vacances scolaires. Et c'est pas tant le résultat qui nous importe que le développement pour aboutir à ces objectifs, que la découverte des matières, des couleurs, de différents artistes, de techniques, au contact donc d'artistes professionnels. Et c'est tout ça que nous cherchons à mettre en valeur auprès des enfants. Après, vous disiez oui qu'en effet, on participe au développement de l'enfant. Oui, parce que pour nous, c'est important aussi de travailler tous en cohésion avec les équipes pédagogiques de l'école. Donc nous faisons le lien entre l'équipe des écoles et les parents à leur arrivée le soir. Donc il n'est pas rare que nous récupérions les petits mots auprès des institutrices ou que la directrice nous fasse part d'une remarque, qu'à notre tour on la divulgue aux parents ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a vraiment ce lien entre l'école et les parents le soir. Donc les parents qui sont accueillis à partir de 18h30 et jusqu'à 20h. Et il y a toujours une période, en effet, d'accueil du parent, une période où on va discuter sur le développement de l'enfant lors de l'atelier ou bien sur les activités à venir qu'on peut proposer.
Oui, je voulais insister sur cette notion de bienveillance parce que j'ai le souvenir d'avoir toujours été accueillie avec un retour très spontané et sur ce qui s'est passé, ce qui est absolument rare dans malheureusement de centres de loisirs ou d'écoles où on n'a plus le contact direct avec les animateurs qui ont... fait des choses parfois même très bien. Et j'ai cette anecdote, c'est que j'ai incité une maman à venir inscrire son fils. Donc elle a été à cette première réunion où elle a rencontré sûrement Émilie. Et Émilie lui a juste demandé sur ce qu'aimait faire son fils. Et cette amie qui a une fille qui est adolescente, donc qui a envoyé plein de fois ses 2 enfants dans un centre d'animation, m'a dit que c'était la première fois qu'on lui demandait les centres d'intérêt. Donc je pense que c'est un peu... représentatif de cette bienveillance qui est portée sur les personnes en tant qu'êtres qui ont des choses à dire et à qui on peut demander leur avis. Voilà.
Oui, parce que l'intérêt, c'est d'aider des familles dans des difficultés de garde, ou c'est avant tout, ou c'est en même temps d'aider des enfants à vivre bien des situations qui pourraient être mal vécues par eux, se sentant abandonnés par l'utilité d'avoir un métier, de gagner sa vie, et puis de ne pas être disponible à la sortie de l'école. Ce sont les deux. Vous allez me dire que ce sont les deux, Anne-Claire.
Montmartre, c'est vraiment un projet protéiforme. Donc, il y a une vraie volonté de démocratiser l'accès à un service de garde adapté en termes d'horaire, de budget, de qualité et équitable. Lorsque j'entends de qualité, en fait, on a une vraie volonté de proposer donc des ateliers qui ont un vrai contenu avec des artistes professionnels, de privilégier le dialogue aussi bien avec les enfants qu'avec la famille et toute l'équipe pédagogique autour du projet. Et on souhaite vraiment en fait soutenir la parentalité, donc éveiller les enfants à l'art par la pratique artistique, mais également créer des événements autour de l'art avec des vernissages des enfants, veille de vacances scolaires pour mettre en avant en fait le travail réalisé par les enfants pendant les 2 mois lors de l'atelier artistique. Il y a souvent des fêtes, des sorties, donc des loisirs partagés en famille. Donc des moments, nous créons en fait des moments conviviaux où pour visiter en fait un musée, participer en fait à un atelier parents-enfants. Donc ce sont vraiment des moments clés qui sont vraiment importants pour l'association et pour les familles.
Et l'art vous a semblé être ce ciment familial, ce ciment par rapport à l'école, cette chose du mieux vivre ensemble? Plutôt que, par exemple, adopter un mode beaucoup plus sportif, mettre les enfants au sport à la sortie de l'école, vous avez opté pour l'art. Expliquez-nous peut-être pourquoi ce choix.
Pourquoi Chantal Vinguenet a souhaité l'art? Parce que l'idée, c'était pas juste de créer un service de mode de garde et où juste on s'occupait des enfants, on les animait, mais de pouvoir proposer une activité épanouissante et au travers de laquelle l'enfant peut découvrir des choses et continuer d'apprendre, mais de manière ludique. Parce qu'on a bien conscience qu'après une journée entière d'école, les enfants sont aussi fatigués. Donc l'idée est vraiment de trouver la manière de les attirer autour d'une activité intéressante, ludique, innovante et rigolote aussi parfois. Et pour nous, l'art est un vecteur social. On utilise l'art comme un vecteur social. C'est quand Anne-Claire parlait donc des vernissages que nous organisons la veille des vacances scolaires. Donc c'est un moyen pour les enfants de valoriser leur travail auprès de leurs parents. Mais c'est aussi une manière d'appeler les parents à venir se joindre à un événement, donc de se connaître entre parents autour de l'art. Donc ils vont découvrir tout ce que les enfants ont fait. Mais aussi, à leur tour, ils vont découvrir des artistes, des techniques, des méthodes, etc.
Alors, justement, signe Claverie, inscrivez-vous dans notre conversation maintenant par rapport à votre activité au sein de cette association Montmartre.
Avec plaisir. Moi, j'ai rencontré Montmartre parce que je suis habitante du 20e. Donc, j'avais déjà entendu parler du réseau Montmartre. Et puis, au cours d'un recrutement d'artistes en début d'année, on a décidé une collaboration autour du peintre Delaunay, en l'occurrence. Là, je vais attaquer sur Kandinsky, ce que je trouvais intéressant à Montpellier-Port, enfin dans le réseau Montmartre en tout cas, et en particulier à Montpellier-Port, c'est un petit peu le résumé de tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on ne c'est pas de l'atelier gommette ou coloriage de fin de journée, remplissage d'emploi du temps pour tenir jusqu'à 19h. C'est pas non plus les ateliers qui sont parfois très élitistes, où on demande à l'enfant en 3 séances de connaître la biographie complète de Léonard de Vinci, ce que beaucoup d'adultes ne connaissent pas non plus. Donc là, on leur donne envie.
J'ai la joie, l'immense joie, de vous présenter Signe. Qui remplace Camille.
Je suis beaucoup plus petite, mais je fais aussi des ateliers. Je suis moins blonde. On va être des magiciens de l'art. Je vous ai amené une petite reproduction qui s'appelle Bleu de ciel. Parce que c'est un petit tableau qui est grand comme ça, qui est à Beaubourg. Vous avez dû aller à Beaubourg. Qui est comme ça, avec un fond de ciel et puis des animaux un petit peu étranges dedans. Et moi, ce que je vais vous proposer sur cette session, sur plusieurs séances, c'est un jeu. Kandinsky, il ne jouait pas au loto. Nous, on va jouer au loto. C'est-à-dire que Karine, on va remuer les billes. Karine, est-ce que tu peux prendre un œuf, s'il te plaît? Une main innocente.
C'est un
œuf.
Je regarde.
Non.
Je regarde pas.
Non. Par contre, après, tu peux l'ouvrir et puis tu peux nous dire ce que tu trouves dedans. Alors, il y a des petits bouts de papier dedans. Il y a des petits bouts de papier. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dessus, alors?
Il y a des mots qui sont écrits dessus. Alors, je vois nageoire.
Tout le monde sait ce que c'est qu'une nageoire. Après, il y a trompe.
Trompe.
Et enfin...
Et après, il y a bec.
Bec. Donc, les trompes d'éléphant, les becs d'oiseaux, les nageoires de poisson. Donc, nous, ce qu'on va faire... Quand vous aurez vu le tableau de Kandinsky, vous allez voir que ce sont des animaux qui sont à la fois dans son imagination et à la fois, c'est des animaux qui sont faits aussi à partir de la réalité, Malo. Donc, par exemple, Karine, elle aurait eu un animal à faire qui aurait une trompe, ou des nageoires, un bec. Mais elle peut très bien lui rajouter un ventre, des fesses, des bras. Il n'y a pas deux œufs pareils, ils sont tous différents. Donc personne ne fera le même animal. Ce qu'on va faire, on va donc commencer par le tirer au sort, le dessiner. On va faire des croquis comme les artistes pour essayer de trouver un équilibre avec les trois mots que chacun aura choisi. Après, au lieu de les peindre, on va créer des sculptures avec. C'est-à-dire que notre animal hybride, moi j'en ai fait une qui n'avait rien à voir avec un animal hybride, c'est un papillon à la base. C'est très simple à faire, mais ça prend du temps et il faut s'appliquer. Parce que d'abord, vous allez le dessiner. Quand vous l'aurez trouvé équilibré, il faudra le reporter sur un carton. Ce carton, il faudra l'habiller de papier mâché. Ce carton habillé de papier mâché, il faudra le mettre en volume. Il faudra lui mettre du plâtre, il faudra lui mettre de la peinture, il faudra lui mettre une accroche. Donc ça va en faire beaucoup des séances. Et à la fin, alors on va faire comme un tableau un peu plus petit que celui-là. On va faire un grand panneau comme ça, qu'on va peindre en bleu de ciel aussi. On va mettre des petits crochets dessus. Et nos petits animaux hybrides, hybrides ça veut dire mélanger de plusieurs choses, on va les prendre et puis peut-être que Célia, elle fera un animal qui ressemblera un peu à un poisson, puis le lundi, elle aura envie de le mettre en bas. Et puis Erwan, il aura envie de mettre un oiseau sur le côté. Et puis Léo, il aura envie de mettre un animal qui ressemblera à une tortue là-haut. Et le lendemain, vous n'aurez pas la même humeur et vous aurez envie de les changer. Ben, vous pourrez changer la place des animaux dans le tableau. Donc ce sera un tableau vivant, un tableau qui bouge.
Sur Delaunay comme sur Kandinsky, je ne veux pas qu'ils sortent à la fin de l'atelier en se disant « il est né là, il est mort là, il a été connu comme... » Non. Si la prochaine fois qu'ils vont chez le dentiste, ils voient une affiche d'un tableau de Kandinsky, ils se disent « ah oui, je le connais, je sais ce qu'il a fait. » Si à la fin de la session, ils se disent « j'aimerais bien que mes parents m'emmènent à Beaubourg voir le tableau. » Si ça leur donne envie d'aller à d'autres ateliers d'art plastique, autres que... le pari sera gagné.
Kandinsky, c'est quelqu'un qui peint, qui imagine des paysages, des dessins, des animaux. Bah, il s'amuse et c'est un métier, c'est les deux.
Bon, moi, c'est comme si c'était un dessin, mais très célèbre. Et comme j'adore dessiner, du coup, j'aime bien les peintres, mais ça dépend lesquels. Par exemple, la dernière fois, j'ai vu un peintre où il faisait des tags et tout, et j'aimais bien. Mais moi, j'aime pas trop les peintres qui font des paysages et trucs comme ça.
Bah, c'est des gens qui utilisent la couleur, qui aiment bien la peinture. Mais il y a des peintres qui, à l'époque, les gens ils disaient « oh, c'est moche », parce qu'il y avait des peintres anciens qui faisaient n'importe quoi, et maintenant, ils sont célèbres. Enfin, voilà, c'est... Ça dépend, il y en a, ils font n'importe quoi. Et puis, ils font un petit trait rouge et ça coûte 1 milliard.
Ça, c'est vraiment le côté artistique. Après, la structure même, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un aller-retour permanent entre les différentes étapes de l'équipe, du réseau, de l'équipe parentale, tous les parents qui se rencontrent aussi, qui échangent entre eux à l'occasion de ces fameux vernissages. Les enfants, la mixité, c'est-à-dire que c'est pas... un atelier où on va trouver juste les enfants de telle classe sociale. C'est vraiment mélangé. Et ça, c'est très intéressant. Il y a toutes les cultures ethniques qui se rencontrent. C'est aussi une richesse, justement, en parler des échanges. Moi, je suis aussi nourrie de ça. Il y a des enfants qui viennent de l'Afrique noire, il y a des enfants qui viennent de l'Afrique du Nord, il y a des enfants d'Asie. Ils amènent leur culture et ils l'amènent dans leurs travaux graphiques. Et ça, c'est un cadeau pour nous, parce qu'on n'a pas accès à ça au quotidien dans notre pratique artistique.
L'idée, c'est de prendre son temps. On est là pour avoir du plaisir à faire quelque chose. Donc, ce n'est pas la peine de prendre l'œuf, de le casser, enfin de l'ouvrir, de prendre les mots, de faire un brouillon et de dire « j'ai fini, signe, c'est bon, je peux le peindre ». Non, ce n'est pas la peine, parce qu'on ne va pas y arriver. On a 2 mois pour le faire. Moi, je l'ai déjà fait au musée Georges Pompidou, justement, cet atelier. Ça a été un bonheur pendant 8 séances, parce qu'à chaque séance... D'abord, aujourd'hui, on va faire le jeu. Mais la prochaine fois, peut-être que si j'ai envie de partir d'une girafe et de lui mettre des ailes et puis une nageoire sur la tête, quand j'aurai fait ça et que j'aurai fait mon dessin, il faudra que je choisisse mes couleurs. Et mes couleurs, à Beaubourg, par exemple, il y avait un enfant, je lui avais demandé de mettre du bleu. Mais c'est tout, le reste, il choisissait. Et lui, il était très triste parce qu'il arrivait du Mali. Mais il aurait bien aimé vivre au Mali, mais il ne pouvait plus. Ses parents sont arrivés en France. Tout son animal était aux couleurs du Mali. Si vous avez des couleurs d'un pays, d'un survêtement, comme je vois sur Mehdi, voilà, d'un couleur de la marine, de faire du bateau, c'est vous qui allez choisir vos couleurs. Ça veut vraiment dire que votre animal, non seulement il sera très original par la forme, mais par la couleur.
Voilà, et puis c'est un endroit où on est formidablement accueillis. Donc on est vraiment pris en compte. Il y a un projet pédagogique. On n'a pas peut-être mis l'accent sur la pédagogie, mais c'est très important parce que l'enfant a autant de place que le parent. L'art a autant de place que l'équipe. Il y a une espèce de sensation de pied d'égalité parce que tout le monde a l'envie et le besoin de partager. Ça se ressent et ça se vérifie sur le terrain. Donc ça, c'est assez rare.
Et comme l'indiquait Signe, on a une vraie volonté de susciter l'envie, à la fois chez les enfants et au sein des familles. L'art, la pratique artistique, créer en fait des moments privilégiés comme des vernissages, c'est aussi permettre à des familles éloignées de l'art de participer en fait à cette dynamique et de se poser des questions, d'être intéressées et d'introduire en fait l'art au sein des familles.
Claire, la maman d'Awa Claire. Alors Claire, comment avez-vous entendu parler de Montmartre et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y adhérer ?
Tout simplement, j'ai une amie qui m'avait parlé d'un étrange centre de loisirs qui était vers la porte de Bagnolet. Oui, elle me disait que c'était super.
Dans ce sens-là,
sa fille, voilà, tout à fait. Atypique. Et du coup, même si ça faisait un peu loin de chez moi, je n'ai pas manqué de l'inscrire en vacances d'été. Elle a passé une semaine, effectivement, très différente, en fait, des centres de loisirs où je l'inscrivais habituellement. Et c'est pour ça que j'ai pris goût et que même en prenant le métro, j'allais jusqu'à la porte de Bagnolet pour accompagner ma fille. Voilà,
c'est... D'accord. Alors donc, il y a les sorties de classe, mais il y a aussi des séjours en dehors des périodes scolaires, hein, c'est
ça ? Tout à fait. En fait, pour les parents dont les enfants ne sont pas scolarisés près de l'association, ils peuvent toujours venir le mercredi pendant les vacances. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, en allant dans un autre quartier, mais en apportant ma fille.
C'est toute la journée, le mercredi ?
Oui, c'est toute la journée, donc avec en plus des horaires étendus. Je ne sais pas si on a insisté là-dessus, c'est qu'il y a quand même pour, effectivement, pour les familles, les personnes qui travaillent, on peut déposer l'enfant de 8h30 à 19h, ce qui n'est peut-être pas forcément recommandable, mais en tout cas, ce qui permet d'être beaucoup plus à l'aise, en fait, dans l'organisation de sa journée.
Alors moi, sur les mercredis, je communique beaucoup auprès des familles pour leur suggérer la régularité dans la fréquentation de leur enfant. Parce que bien souvent, c'est vrai qu'on a aussi, en tant que parents, envie de profiter de nos chérubins le mercredi. Et néanmoins, nous, on propose des projets, et même sur les mercredis. Donc ça veut dire que, enfin, moi, à mon sens, Émilie, directrice de Montpellport, je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique pour l'enfant de participer donc, à tous les mercredis entre deux périodes de vacances scolaires pour aboutir aux projets et aux objectifs définis en début de session. Donc c'est bénéfique pour les enfants. Enfin, de venir régulièrement. Il ne s'agit pas de venir une fois de temps à autre, mais bien de... Enfin, ce qui est possible d'ailleurs aussi, mais bien de participer à un projet et d'évoluer dans le projet avec l'artiste et les autres enfants également.
Merci, maman. Je m'appelle
Madame. Toutes les associations du réseau Montmartre proposent un mode de garde souple et flexible, adapté aux contraintes urbaine des parents. Donc nous accueillons les enfants le soir, après l'école jusqu'à 20h, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Le réseau Montmartre crée des lieux inédits de prise en charge des enfants de 6 à 11 ans, après l'école, les mercredis et pendant les vacances scolaires, favorisant l'épanouissement des enfants à travers l'art, la pratique artistique et la culture. Ce sont des lieux qui s'adaptent aux revenus et aux horaires des parents, tout en assurant une vraie mixité sociale.
Dans les antennes du réseau Montmartre et à Montpellport, donc, on ne vient pas pour apprendre le dessin ou pour s'initier au violon, par exemple. Nous, l'idée, c'est de proposer une variété d'ateliers et de l'originalité. À savoir que, par exemple, on va découvrir Kandinsky par le fer, sur la sculpture.
Voilà, exactement, que ce soit la sculpture, la peinture, on va passer par le fer, par l'envie d'abord. L'envie va aider à la pratique. Et la pratique, elle, amènera la théorie. Mais encore une fois, ce n'est pas la biographie de l'artiste qui nous intéresse, mais vraiment une technique artistique permet de croiser l'univers d'un artiste, l'univers créatif d'un artiste, et le tout est vraiment pris dans un liant de plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas d'envie, il n'y a pas d'atelier, quoi.
Oui, ce que je peux, moi, en tout cas, en tant que mère de participante à Montpellport, ce qui est vraiment flagrant, c'est elle a passé les premières vacances... Pendant une semaine, elle s'est mise à colorier de façon tout à fait étonnante et spontanée. Et ça, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle avait une année assez difficile. Et je pense que dans la valorisation d'elle-même, ça a été une première vraie ouverture qui venait de façon non institutionnel. En plus, on apprend, j'ai vraiment ce souvenir donc, dans cette antenne, qu'on a cette table, on a les crayons tout de suite accessibles. Donc les enfants arrivent dans la salle et se précipitent peu à peu, enfin, dès le deuxième jour, à tout de suite bricoler, couper, on sait où sont, tout est accessible. Là, c'est vraiment la démocratisation de l'art dans la spontanéité de ce temps d'attente. Avant le démarrage des ateliers, les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Et il n'y a pas non plus ce jugement sur l'orthographe, par exemple. On écrit, je pense que les animateurs sont là pour rectifier à l'oral si besoin, mais en tout cas, on est dans la spontanéité et c'est un grand moyen de se découvrir en tant qu'enfant par soi-même ce qu'on aime faire, ce qu'on aime dessiner, et voilà.
Oui, spontanéité dans l'expression.
Spontanéité dans une expression qui est en plus pertinente, c'est-à-dire qui est accompagnée, encadrée et de façon ouverte. Voilà.
Montmartre contribue effectivement au mieux-être de l'enfant, à son équilibre, en lui proposant un espace d'expression qui soit en dehors de l'école, en dehors de la famille, un espace donc d'expression de l'enfant, sans jugement de valeur, sans notation.
Ce qui est très important, c'est au niveau sociétal, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, que l'enfant sache que les connaissances lui sont présentées, offertes, proposées. Il s'en empare selon son appétit, selon son vécu, selon son ouverture, son développement, grâce à l'école. Mais la société, en plus de lui apporter ses connaissances et une relation sociale avec tous les petits garçons et petites filles de sa promotion, en plus de lui ouvrir cette voie de l'imaginaire, qui est l'expression artistique, et dans laquelle, comme vous le disiez tout à l'heure, il se trouvera en égalité avec tous, en fraternité et en partage avec tous, à ces moments-là que vous leur offrez. Claire, vous vouliez rajouter ?
Oui, moi j'ai 42 ans, mais j'ai quand même envie, quand je vais à Montpellier-Port, quand j'accompagne ma fille, j'ai quand même une petite pensée pour l'éducation populaire. J'ai l'impression de retrouver des choses qu'on a un peu perdues dans les centres de vacances, où on est dans l'activisme et parfois pas toujours très réfléchi. Et ça, ça me fait assez plaisir de retrouver des valeurs comme ça, de développement de l'enfant dans son intérêt et surtout pour lui. Et en plus, quand on pense à la famille au niveau des horaires et au niveau de ce qu'on peut proposer, c'est super.
Ça va tout à fait dans le sens du travail que Signe Claverie nous indiquait tout à l'heure.
Tout à fait. Puis justement, je voulais rebondir par rapport à ce que vient de dire Claire. Il y a une surprise, moi, ça fait 20 ans que je fais des ateliers d'art plastique dans tous les musées et les associations parisiennes. C'est la première fois que, pendant mon atelier, un parent est venu chercher son enfant et m'a demandé s'il pouvait participer à la séance d'après. Et je n'étais pas sûre de ma réponse, que je me suis référée à la hiérarchie, c'est-à-dire à Émilie, qui m'a dit mieux au contraire avec plaisir. Et ce parent est venu 3 fois et a suscité l'envie d'un autre. Là, c'était une maman et c'était un papa à la dernière séance qui est venu aussi. Donc cette liberté-là, elle fait partie de l'ensemble à Montmartre et en l'occurrence à Montpellier-Port, qui est rare parce qu'effectivement, que des parents aient envie, c'est rare, qu'ils aient envie et le temps, c'est encore plus rare, mais qu'on leur réponde oui, alors là, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je n'en ai jamais croisé et je trouve ça formidable de voir des parents prendre le pinceau, se mettre un vieux t-shirt et se dire « je vais passer une heure à prendre du plaisir avec mon gamin ». Et du coup, le regard de l'enfant est encore plus alimenté, encore plus nourri, parce qu'il y a l'affect parental qui est là, qui s'investit aussi. Donc ça, c'est un cadeau. Voilà.
Ah, je n'avais pas compris. Le parent voulait lui aussi participer à l'activité.
Il a participé, il a pris les pinceaux, il a pris la peinture et il s'est mis au travail.
Ah, c'est génial.
Entouré de ses deux filles pour le papa et entouré d'une de ses filles pour la maman, qui elle faisait de la mosaïque, puisqu'on a fait aussi de la mosaïque. Et donc, c'est un cadeau pour moi, pour les enfants, de voir des adultes qui se sentent tellement à l'aise dans ce réseau qu'eux-mêmes viennent participer en fin de journée, alors qu'eux aussi, ils ont leur journée de travail avant, et de métro, et de bureau, etc. Donc, c'est très agréable.
Alors, d'autres disciplines artistiques prochainement, comme la musique peut-être, en vue dans les perspectives de développement du réseau Montmartre, alors, Anne-Claire.
Aujourd'hui, il existe donc 6 lieux d'accueil à Paris et 2 à Arles et Nantes. Nous travaillons à l'ouverture de prochains lieux d'accueil en région parisienne. Saint-Ouen, Montreuil, Nanterre et également en fait un projet à Lille. La musique effectivement est une pratique en fait que nous aimerions développer au sein des associations. Donc peut-être sous forme en fait d'un concert ou d'enregistrement d'un CD. Donc non, il y a une vraie volonté en fait de mélanger les pratiques artistiques. Il existe également un festival de courts-métrages intitulé Cinémôme. Donc nous avons fêté la 4e édition de Cinémôme au Max Linder en février dernier. et c'est l'occasion pour les enfants de travailler sur des ateliers cinéma, donc entièrement consacrés au cinéma pendant 2 mois, avec des ateliers, maquettes de mon film préféré, studio Harcourt.
Bruitage, réalisation de films muets.
Ah, c'est passionnant. Et alors donc, j'avais relevé toute une liste d'artistes qui viennent proposer leurs compétences aux côtés de Signe Claverie. Alors, vous pourriez nous dire quelles sont leurs compétences aux uns aux autres, qu'on voit un peu la diversité de leur...
Alors, oui, en effet, je pense que c'est quelque chose de très important à relever, c'est qu'on ne vient pas à Mompelpoint pour apprendre le dessin, par exemple. Et l'idée, c'est que nous, nous proposons une variété, une très large variété d'ateliers que nous renouvelons tous les 2 mois. Nous proposons 10 ateliers par semaine, avec 2 ateliers différents tous les soirs. Donc, on a 2 groupes d'enfants avec 2 ateliers différents. On essaye de mélanger des ateliers scéniques et des ateliers plastiques. Et en plastique, donc on ne fait pas juste du dessin ou de la peinture, mais donc on va utiliser la peinture avec un petit peu de sculpture. On va transformer des objets du quotidien. Donc ça, ça fait aussi appel à la récupération auprès des parents. Donc on investit encore une fois les parents dans le projet d'une certaine manière. Il y a des projets aussi beaucoup d'architecture, donc où on amène l'enfant à se repositionner dans son quartier et où à notre échelle, on va reconstituer une maquette du quartier ou bien d'un village en Laponie, par exemple. Donc, à travailler sur les volumes. Les volumes, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les enfants et où les enfants sont amenés à se repositionner, eux, en tant que petits individus. Et c'est un travail vraiment très enrichissant avec les enfants, ce travail donc en volume et sur l'architecture et la place de l'enfant dans la ville. En musique, par exemple, ce qu'on peut proposer, c'est aussi des ateliers de percussion corporelle, par exemple. Ça a beaucoup de succès. Et puis de la découverte aussi d'instruments traditionnels. Mais disons que l'univers musical est assez difficile aussi à exploiter puisqu'on ne va pas pouvoir s'initier à des instruments sur des courtes périodes de 2 mois. Donc il faut que de notre côté, on réfléchisse à une manière d'amener les enfants au monde de la musique et qui soit cohérente également avec notre système de fonctionnement sur des projets de 2 mois. Qui vont alimenter la curiosité des enfants.
Donc Montmartre ne s'arrête pas là, c'est une réflexion, une philosophie en marche et en développement incessant.
Constant, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau des lieux d'accueil, pédagogique également.
Il y a une remise en question qui est nécessaire, quoi, inhérente à ce type de projet.
Comment ce type de projet est-il perçu par nos chers élus ? Vous êtes une association aux lois 1901 ?
Toutes les structures du réseau Montmartre sont des associations loi 1901. Nous sommes soutenus par des partenaires publics, par des fondations, notamment la fondation HSBC.
Qui vous suit depuis combien d'années, la fondation HSBC ?
Depuis 2 ans, donc, et qui soutient en fait l'accès à l'art pour des enfants en situation de fragilité. Et les structures sont également en fait financées par la participation des familles.
Oui, comme Émilie nous l'expliquait tout à l'heure, selon le quotient familial et les revenus de chacun.
Alors, au niveau du budget de fonctionnement, on a à peu près 1/3 donc, de ressources propres qui provient des familles, 1/3 de ressources privées et 1/3 de ressources publiques. Il faut savoir que quand une famille paye 10 centimes de l'heure le soir, nous, ça représente un coût de revient de 8 euros. Ce qui veut dire que on a 7,90 euros à aller chercher ailleurs. Voilà.
Très bien. Alors, quels sont les projets ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Montmartre ces prochaines années ? Parlez-nous de vos rêves.
Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en plein développement. Donc, nous sommes en cours d'essaimage du projet Montmartre à Paris et en province. Et nous souhaitons en fait trouver un modèle économique qui nous permette d'offrir ce service à davantage de familles et
comment
d'enfants.
Comment êtes-vous reçu par l'éducation nationale ? Votre relationnel avec l'école, est-ce que c'est quelque chose qui est bétonné ou est-ce que c'est quelque chose qui ne demande qu'à être développé, connu ?
Alors, sur le terrain, c'est vrai que nous, notre rapport, on travaille vraiment dans une dynamique de réseau et de coopération. Je pense que pour tous les directeurs des différentes associations, il sera absolument inenvisageable d'aller desservir une école un soir sans avoir l'appui et le soutien de la direction et de l'équipe pédagogique. On pourrait tout à fait le faire. On pourrait arriver à la sortie des écoles et chercher les enfants, donc en collaboration avec les familles. Mais pour nous, c'est absolument indispensable de travailler en réseau et avec l'accord, l'assentiment et la participation de tout un chacun. Donc l'éducation nationale, en tout cas à l'échelle des associations locales, est tout à fait partie prenante. Et c'est vrai qu'on pourrait, en revanche, faire des propositions sur l'aménagement des temps aussi, ou bien sur comment investir davantage l'art dans l'épanouissement des enfants, ou bien comment utiliser des temps libres des enfants autour d'activités artistiques pour favoriser l'épanouissement et un bon usage du temps dans la journée très chargée des enfants.
Et les lieux dans lesquels nous allons apporter nos micros pour faire ce reportage, cet enregistrement, alors ces lieux sont loués, ces lieux sont acquis par l'association, ces lieux sont... Il y a chaque fois des choses à démarcher, à prospecter, à rechercher pour votre développement.
Comment est-ce alors, que... nous avons en effet deux défis au niveau du réseau Montmartre, donc qui sont d'abord de s'assurer d'un minimum financier pour pouvoir démarrer une antenne et évidemment d'avoir un lieu où accueillir tous ces enfants et ces familles. Ça, c'est une grosse difficulté, puisque nous sommes donc une association, que nous n'avons pas les moyens même d'une PME, et donc nous avons vraiment besoin de loyers à prix préférentiel, je dirais. Moi, sur Montpellepor, j'ai l'avantage d'être soutenue par un bailleur immobilier qui a été séduit par le projet social, le projet auprès des enfants, et qui avait en l'occurrence un petit pavillon abandonné depuis quelques années et qui s'est dit bah, « votre projet me plaît, je vous mets à disposition mon local pour un certain nombre d'années ». Donc moi, ma situation est absolument idéale, mais concernant en tout cas Montmartre et Momgane, à Porte de Bagnolet par exemple, il y a des loyers et qui se négocient. Dans le cas des antennes en démarrage, c'est un gros moment d'attente que d'arriver à un tarif qui peut être abordable de notre côté.
Pour lancer en fait le service Montmartre sur de nouveaux territoires, en fait, il y a un lourd travail en amont de recherche de partenaires, de rencontres en fait avec les partenaires locaux, associatifs, la mairie, l'école bien sûr. Un travail en amont qui peut prendre des mois ou même des années.
Moi sur Montpellepor, ça m'a pris un an et demi avant d'ouvrir.
Et ensuite dupliquer, mais selon les modalités que vous voulez mettre en service, l'utilisation des familles, c'est-à-dire ne pas dupliquer quelque chose qui prendrait un aspect que vous ne souhaitez pas, c'est-à-dire du gardiennage d'enfants, entre guillemets, mais continuer à développer votre concept.
Au niveau de l'originalité, en effet, vous mettez l'accent sur un point important. Il est absolument hors de question aussi de s'installer sur un territoire où il y aurait une grosse offre artistique ou bien beaucoup de modes de garde. Et à la fois, notre service propose des avantages, enfin, donc la sortie de l'école, la prise en charge des enfants depuis la sortie de l'école est jusque 20 heures. Ça, c'est quand même un gros avantage pour les familles. Et puis, tous les aspects donc, parallèles à nos propositions des enfants, donc ce qui concerne les loisirs partagés, les sorties du mercredi avec les enfants que nous essayons de varier, de multiplier de plus en plus.
Les cours pour adultes, donc le soir à partir de 20h, parce qu'en fait, il y a une vraie volonté de mutualiser ce lieu et de proposer ce lieu que Montmartre, en fait, soit toujours un lieu vivant et utile pour les habitants.
Nous avons du yoga, de la chorale. On a eu également des cours de Photoshop, par exemple, des cours de dessin.
Ah voilà, oui, ce sont des lieux qui, lorsque les enfants les quittent pour aller se coucher, pour aller se reposer avant d'attaquer la journée suivante, sont mis à la disposition des adultes. Alors.
Des artistes. Donc, des services également liés au retour à l'emploi des femmes sont proposés au sein des associations. Donc l'objet de Montmartre, c'est vraiment de permettre le retour à l'emploi ou le maintien à l'emploi des familles et notamment des foyers monoparentaux et des femmes seules en fait vivant avec leurs enfants. Donc régulièrement en fait sont proposés des services pour le retour à l'emploi des femmes animés par des structures en fait dont c'est le cœur de métier.
C'est un vrai lieu de cohésion sociale.
On va travailler avec des mots, ça sera des mots dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est des mots qui voyagent.
En effet, nous, à Montpellepor, là, le 19 mai, nous organisons la fête de quartier, donc en collaboration avec d'autres associations locales. C'est important pour nous de créer et de participer au tissu associatif et même institutionnel local à notre échelle. Et donc, on travaille toujours en collaboration avec nos voisins, avec qu'ils soient habitants ou associatifs ou institutionnels. Donc, c'est vraiment un réseau de cohésion sociale.
Donc, un lieu social dans la cité et avec cette ouverture de l'esprit, de la conscience sur l'art. Merci à vous toutes de nous avoir parlé de Montmartre. Merci à toutes les quatre. Bonne continuation et merci à HSBC de nous avoir permis, à Canal Académie et à vous, Montmartre, de réaliser cette émission de radio-reportage. Merci.
Merci.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Elle fait un atelier qu'elle dit. À mon avis, vous allez faire des dessins, des très jolis dessins. La mais je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, mais en tout cas, elle va vous présenter son atelier pendant le goûter. La directrice.